implorons ce soir. Car tu connais nos vies, nos combats, nos chutes, nos insuffisances. Et vers toi, nous levons nos yeux. Car au Dieu de miséricorde, il y en a un qui est venu. Il est venu nous délivrer, il est venu nous purifier. Et nous voulons nous attendre à lui, Père. Car sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, Père éternel, nous pourrons avancer. Tu connais la marche d'un chacun, tu connais les combats d'un chacun, tu connais les faiblesses d'un chacun. Seigneur, si toi tu n'interviens, aucun d'entre nous, ô Dieu, ne peut se sauver lui-même. Tu es venu justement pour ça. Aussi, nous voulons implorer ta grâce. Purifie nos cœurs, Père éternel, ô Dieu. Et tous ceux qui, ô Dieu de miséricorde, nous empêchent, Père éternel, de te voir, soient ôtés dans le nom de Jésus-Christ. Et que notre réunion soit par toi bénie. Que cela ait de l'impact dans chaque vie. N'oublie pas la mienne, Père. Merci pour ta grâce. Maintenant, conduis-nous pour la suite. Éclaire-nous, instruis-nous, corrige-nous, redresse-nous, Père éternel, ô Dieu, afin que notre marche soit aussi droite, Père éternel, ô Dieu. Oh, comme toi tu le veux, Père éternel, ô Dieu. Merci pour ta grâce. Nous comptons sur toi, Père, et nous prions, Père éternel, que tu répandes de ton esprit au milieu de nous, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit de force. Nous nous attendons à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous, Père, alors que, ô Dieu, je suis dans un état d'extrême faiblesse. Mais, ô Dieu, tes instructions, tes conseils ont été un soutien, une force pour ma marche. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons vu la fois passée qu'à la croix, un bouleversement s'est opéré. L'ordre adamique, l'ordre aaronique ont été déracinés pour faire place à un nouvel ordre, l'ordre de Melchisédek, par Jésus-Christ. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, des villes entières sont détruites et les maisons deviennent impropres à l'habitation. Il faut tout détruire pour reconstruire de nouvelles maisons ou de nouvelles villas. Le tremblement de terre à la mort de Jésus a eu lieu pour faire s'écrouler l'ancien monde, l'ancien ordre, l'ordre aaronique, pour la naissance d'un ordre ou d'un monde nouveau qui n'a rien à voir avec l'ancien. L'ancien devait mourir pour laisser place au nouvel ordre, à l'ordre de Melchisédek, et l'entrée en scène d'un nouveau souverain sacrificateur et de nouveaux sacrificateurs. Nous ne nous rendons pas compte de ce qui s'est passé à la croix. Tout repartait à zéro. La loi faisait place à la grâce. Ce n'est pas que la loi soit mauvaise, mais un nouvel ordre qui transcende la loi était mis en place. Et le nouvel ordre introduisait deux éléments fondamentaux de la grâce, le pardon et la réconciliation. C'est l'essence de la croix. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère de la réconciliation. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 2, 17, 20. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous vous asseoir. C'est quoi réconcilier? Nous pouvons disséquer ces mots. Il y a réconcilier. Ré, ça veut dire de nouveau. Ramener à nouveau. Ramener ce qui était. Concis, il y a le mot con ou cum en latin qui signifie avec. Et enfin, lier, c'est connecter, établir un lien. Réconcilier, c'est donc lier de nouveau ce qui était. Je réponds, réconcilier, c'est lier de nouveau ce qui était. Nous étions en Dieu, le Père éternel, mais à cause du péché, nous avons été séparés de Dieu. Il n'y avait plus moyen d'entrer en contact avec lui. Adam et sa femme ont été chassés du jardin. Ils ont été chassés loin de la présence de Dieu. Ses descendants ont subi le même sort, vivant loin de la présence de Dieu. Dieu a travaillé avec des hommes dans l'Ancien Testament, ça n'a pas marché. Il a travaillé avec Israël et la loi, ça n'a pas marché. Alors Dieu va se décider lui-même de venir en personne, en la personne de Jésus-Christ. Dieu fait chair. Jésus-Christ est venu rétablir ces liens qui étaient brisés entre l'homme et Dieu, mais aussi entre l'homme et son prochain, entre l'homme et sa femme, entre frères et sœurs, entre parents et enfants. Remarque quelque chose de très fort ici. Christ n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu seulement rétablir les liens avec ceux qui étaient déjà en lien avec les pères, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà dans les pères. Je reprends, Christ n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu seulement rétablir les liens avec ceux qui étaient déjà en lien avec les pères, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà dans les pères. Ceci est un grand mystère. C'est pourquoi la parole n'est pas destinée à tout le monde. Même si tu peux l'entendre. Ne croirons que ceux qui ont été destinés à croire, ceux qui étaient en Dieu dès le commencement. C'est quoi le pardon? Le pardon vient d'un mot latin qui signifie donner complètement, donner de tout cœur, remettre. Il véhicule la notion du don. Et cela vient du cœur. Et ce que tu donnes, tu ne le reprends pas. C'est renoncer à tirer vengeance d'une offense ou à punir une faute. Quelle est donc la différence entre pardon et réconciliation? L'exemple le plus simple est le réseau électrique. Naturellement, il y circule de l'électricité pour alimenter les maisons ou les usines. Supposons qu'à cause d'un incident malheureux, la chute d'une grue, les câbles électriques soient sectionnés. Il n'y a donc plus de courant et il n'y a plus de lumière dans les maisons. Electrabel va envoyer ses agents pour réparer ou remplacer les câbles. Le fait de réparer les câbles, c'est déjà un grand pas dans la bonne direction pour rétablir l'électricité. Mais les gens n'ont pas toujours de lumière. Il y a une étape qu'Electrabel doit encore faire. C'est reconnecter les maisons en faisant passer à nouveau l'électricité dans les câbles afin d'alimenter les maisons comme avant. C'est ce que Christ a fait. Il est l'agent de Dieu pour rétablir la vie de Dieu dans les hommes, pour relier les hommes avec Dieu et les hommes avec les hommes. La première chose qu'il fait, c'est le pardon, c'est-à-dire réparer les câbles sectionnés. La deuxième chose qu'il fait, c'est la réconciliation, c'est-à-dire envoyer sa vie, la vie du Saint-Esprit, dans les croyants. C'est remettre l'électricité dans les réseaux pour que ceux qui avaient perdu cette connexion puissent la retrouver et de nouveau jouir et briller de la vie de Dieu. Il a aussi rétabli les liens entre l'homme et son semblable. Et il nous appelle à faire de même si nous sommes à son image. C'est ça, le ministère de la réconciliation et la fonction d'ambassadeur. Le pardon est le prérequis de la réconciliation. Le pardon est la condition sine qua non de la réconciliation. Tu peux pardonner sans qu'il y ait réconciliation, mais tu ne peux pas te réconcilier sans qu'il y ait pardon. Christ est venu pour la réconciliation. La réconciliation est normalement le but ultime et final du pardon. C'est ça l'essence de la croix. La croix, c'est comme quelqu'un qui a les bras et le cœur ouverts pour accueillir l'autre. C'est ouvrir tes bras et ton cœur à la rencontre de Dieu et de ton prochain dans un élan d'amour divin. Il y a donc dans la croix la dimension verticale entre Dieu et l'homme et la dimension horizontale entre l'homme et son prochain. On en a parlé la fois passée. Il en découle les deux dimensions du pardon et les deux dimensions de la réconciliation. Le pardon que Dieu accorde à l'homme et le pardon que l'homme accorde à son semblable. La réconciliation entre Dieu et l'homme et la réconciliation entre l'homme et son semblable. Ce sont des thèmes assez vastes que ceci n'est qu'une introduction. Pardon. Ouvre les bras et le cœur pour accueillir que celui qui est prêt à mourir. Car il faut accueillir l'autre malgré ses faiblesses, malgré son état, malgré son caractère. La mort n'est jamais quelque chose d'agréable. Et pourtant, il en faut pour qu'une nouvelle vie entre en scène, pour que la réconciliation soit possible. Mourir à sa vieille nature demande une mise à mort. Christ est parti à la croix, mais ce sont les autres qui l'ont crucifié. Il perdit du sang suite aux blessures infligées et il rendit l'esprit. Christ a subi la mort physique et il était volontaire, mais il ne s'est pas donné la mort lui-même. Toi non plus, il faut être volontaire, mais ce sont les circonstances et les autres, souvent les plus proches, qui vont t'amener à la mort. Tu n'as pas besoin de te donner la mort. Dieu a des agents pour cela, car il veut que tu vives. Je ne parle pas de ta mort physique, mais plutôt de la mort du vieil homme, de la mort de ta vieille nature. C'est pourquoi il t'arrive d'avoir des problèmes avec les autres. C'est pourquoi il y a les circonstances et les combats auxquels tu fais face dans ta vie. Les autres et les circonstances ne sont que les agents ou des moyens qui te conduisent à ta propre mort. Ne leur en voulez pas. C'est dur, hein? Ils sont là pour que tu meures à toi-même et que tu vives et que tu puisses vivre en Christ. Personne n'acceptera de mourir si ce n'est pour une cause qui les transcende ou qui l'élève. Ta mission doit être plus grande que ta propre vie pour accepter la mort. Cela a coûté à Christ. Il faut que ça te coûte aussi. Christ a arpenté le mont Golgotha. Les gens se moquaient de lui. Ils l'injuriaient, ils l'ont battu. Il croulait sous le poids de la croix qu'il portait et où il sera lui-même crucifié. Nous savons que la croix est l'emblème de la souffrance. C'est l'emblème de la mort. Mais c'est la croix qui est aussi le chemin de la gloire. Il faut que ça t'écoute. Ça t'écoutera peut-être ta famille, ta beauté, ton travail, tes amitiés, ta réputation. Qui a dit que la vie chrétienne était facile? Oh non, il faut aller à contre-courant des valeurs de ce monde. C'est ça la lutte de chacun, car il faut lutter contre des vents contraires. Et il faut même lutter contre sa propre nature. C'est un revirement de 180 degrés. Lisons dans Matthieu, Matthieu 5. Christ va nous montrer la vie qu'il est venu nous apporter. Matthieu 5, à partir du verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. On s'arrête là. C'est à cette vie que Christ nous appelle. On est tous dedans. Christ ne peut nous demander quelque chose dont il sait bien que nous pouvons le faire. Certains diront que c'est impossible. Mais si Christ demande cela, c'est que c'est possible. C'est possible pour ceux qui sont passés par la mort et vivent en Christ. Il ne parlait pas à tout le monde. Il les disait aux siens qui savaient que Christ a le pouvoir de les transformer. Intérieurement, tu peux dire, « Je deviens donc une serviette où tout le monde peut me marcher dessus. » C'est ce que nous avons lu là. C'est toi qui les penses et tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu nous appelle à une vie extraordinaire. Cette vie-là, c'est Dieu qui te la donne pour réaliser des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement. Cette vie-là n'est pas possible pour un homme charnel, mais elle l'est pour l'homme spirituel. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Si tu crois que ce n'est pas possible, alors ce n'est pas pour toi. Tu réalises que la vie de Dieu est une puissance pour te faire vivre ce qu'un homme naturellement ne peut vivre. C'est en cela que cette vie est divine et surnaturelle. Dieu t'appelle à une vie très élevée. Je répète, Dieu veut que tu vives une vie extraordinaire, une vie parfaite. C'est ce qu'il vient nous dire. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà le modèle de perfection divine. Alors, Dieu te fait passer par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est un grand chantier. Il a fallu 40 ans pour que les enfants d'Israël entrent dans la terre promise. La sanctification n'est pas une chose facile. Le modèle de perfection divine, c'est ce que Christ est venu apporter, une vie parfaite. C'est ce qu'il était. Les pharisiens n'avaient pas compris qu'un changement de dispensation prenait place. Ils venaient avec leur vieille manière de faire les choses et de juger, hypocrites qu'ils étaient. Ils avaient une application bête et incomplète de la loi. Lisons Jean 8. Jean 8, à partir du premier verset. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Ils n'avaient qu'à les lapider, alors pourquoi ils sont venus chez Christ? Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alors que Jésus enseignait dans le temple, et ils étaient allés épier des femmes pour en prendre une en flagrant délit d'adultère. Pourquoi n'assistait-il pas à l'enseignement de Jésus? Il ne l'appréciait pas, parce que Christ est venu bouleverser tous les codes de vie dont il se croyait le gardien. Et comme le peuple allait écouter Jésus, certainement leur audience avait baissé. Ils perdaient la clientèle à cause de celui qui osait s'appeler Fils de Dieu. Ce sont ces types de gens qui aiment toujours être au devant de la scène et n'aiment pas que d'autres se lèvent, car leur popularité risque de subir un coup fatal. Ce sont des gens qui se croient saints et qui sont là à pointer les fautes des autres et sont aveugles à leurs propres fautes. Mais quand le vent de changement est là, nul ne peut l'arrêter. Au lieu d'écouter Jésus, eux, ils étaient occupés avec la femme adultère. Il la place au milieu du peuple pour défier Jésus. Ils ont reconnu en Jésus un pouvoir certain et une autorité certaine. Car autrement, qu'avait-il à amener cette femme à Jésus? Il n'avait qu'à appliquer la loi. Il n'est pas bon de poser des questions pièges aux gens, des questions avec arrière-pensée, parfois même avec un sourire narquois au coin des lèvres. Soyez vrai. La réponse de Jésus ne concerne pas d'abord la femme, mais ceux qui l'ont amenée. Pendant que Jésus écrivait sur le sol avant de leur répondre, eux, il les harcelait de questions car ils étaient impatients d'en découdre avec lui et l'humiliaient certainement devant le peuple réuni. N'humiliez jamais les gens car vous risquez d'être confus par ce qu'ils peuvent faire ou dire. Jésus a juste mis un miroir devant eux. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Oh, nous parlerons un jour de la maison de Dieu qui est aussi un hôpital. Car Jésus a dit que ce sont les malades qui ont besoin des médecins. Ceux qui se croient en bonne santé n'iront jamais voir les médecins. Et là, les pharisiens se rendent subitement compte qu'ils étaient autant malades que la femme. Et donc, si vous venez ici, c'est parce que vous êtes malade et chacun a sa pathologie. Vous savez, il y a des gens gravement malades dont on dit qu'ils sont à l'article de la mort et qui finissent par survivre à ceux qui se croyaient bien portants ou souffrant d'une petite grippe. Rien de grave, disent-ils. La femme adultère, l'adultère, c'est très grave, mais le petit mensonge, ça, ce n'est rien. Voler, c'est grave, mais parler mal du frère ou de la sœur, ça, c'est pas grave. Toute maladie mal soignée peut amener à la mort. Un malade ne se moque pas d'un autre malade. Car que sais-tu si ce dernier te survivra dans les jours qui viennent? Et les malades cherchent à être guéris. C'est pourquoi, quand tu vas chez les médecins, on parle de secret médical. Si tu vois ton frère ou ta sœur malade, c'est-à-dire qu'il pêche ou qu'elle pêche, ne va pas les crier. Va les trouver et aide-les. C'est un secret médical. Si un frère vient te confier son problème, sa maladie, son péché, ne va pas le crier aux autres. C'est un secret médical. Aide-les et ferme-la. C'est l'Évangile. Le secret ne doit être dévoilé qu'aux seules conditions décrites dans Matthieu 18. Matthieu 18, à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est le secret médical. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Et cela rentre alors dans les secrets médicaux. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Alors là, c'est public. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. La vie n'est vraiment pas une pique-nique. On dit un ou une pique-nique? Un pique-nique. Merci. Et tu n'iras pas au ciel sur un lit fleuri de facilité, comme le frère aime à le répéter. Revenons aux pharisiens et aux scribes. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Ils croyaient qu'ils étaient saints en venant avec la femme adultère auprès de Jésus. Ils avaient une haute opinion d'eux-mêmes. C'est comme ça qu'on entend dire « Oh, il était en bonne santé et il est mort. Qu'est-ce que toi tu en sais ?» Les médecins sont limités dans leur diagnostic. Se croire en bonne santé ne veut pas dire que tu es en bonne santé. C'est pourquoi régulièrement il faut aller faire un contrôle médical. C'est pourquoi nous venons ici pour faire un contrôle médical de l'être intérieur. Pas seulement ici, les autres, les frères et sœurs, aussi jouent dans ta vie le rôle des médecins. Car ils peuvent voir ce qui ne va pas dans ta vie. Les symptômes sont visibles. Chaque maladie a ses symptômes. Alors, tu fais un diagnostic par les symptômes que tu vois. Si tu vois ton frère pécher ou suivre un mauvais chemin et que tu gardes silence, tu es coupable de n'avoir pas agi. C'est non-assistance en personne en danger de mort, comme le disait frère Flavien ici. C'est ton devoir en tant que chrétien de répandre la personne en toute humilité et avec amour. Si tu les reprends, peut-être tu auras gagné ton frère ou ta sœur et tu auras extirpé le mal de sa vie. Ne te cache pas derrière des arguments bidons, ce n'est pas mon problème ou je vais les blesser. La vérité blesse une fois, mais les mensonges te rongent tout le temps. Et en plus, tu laisses l'autre dans sa situation. Tu diras, ce n'est pas mon problème. Si, ça l'est. Si tu as diagnostiqué qu'il y a un problème, c'est ton rôle d'aider la personne. Nous veillons les uns sur les autres, mais nous ne nous surveillons pas les uns les autres. Le faisons-nous? Nous sommes pressés d'aller les raconter comme pour paraître saints aux yeux des autres. Cela peut devenir même ta tasse de thé. Folie pure. Ne sape jamais l'influence des nôtres. Si tu fais ça, tu as toi-même besoin d'aller voir les médecins. Tu n'as pas besoin d'aller le dire à qui que ce soit. C'est à toi d'aider la personne, qui qu'il soit. Et si tu ne le fais pas, comme j'ai dit, tu es coupable. Mais fais-le seulement avec humilité, car toi-même, tu es pécheur. Si tu ne le fais pas, je répète, Dieu t'en tiendra responsable. Si tu n'as rien de bon à dire sur ton frère ou ta sœur, tais-toi. Tu éviteras de te charger d'un péché. Nous avons besoin les uns des autres pour nous aider, pas seulement pour partager des repas ensemble, mais de nous corriger, de nous redresser les uns les autres dans l'amour et dans la vérité, et de nous exciter à l'amour. Ça, c'est le vrai amour. C'est la preuve à ce moment-là que nous nous aimons. Celui qui aime veille sur l'autre afin qu'il ne lui arrive rien de mal. Fais cela et Dieu te bénira. Nous reviendrons lorsque nous parlerons du pardon. L'Église est malade parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit de faire. Revenons aux pharisiens. Ils ont été humiliés comme jamais auparavant. Et devant tous ces peuples réunis, la foule a dû se dire, eux aussi, on les croyait saints. Il n'y a que Dieu qui connaît l'état réel d'une personne. Ta sainteté ne veut rien dire. Nous avons besoin de la sainteté de Dieu en nous et nous avons tous besoin de son aide. La Bible dit, tous les hommes ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, ne te vante de rien si ce n'est de compter sur sa grâce. Tu ne sais pas ce que vit l'autre et comment il vit dans les secrets de sa vie. La Bible dit dans 1 Timothée 5, j'espère qu'on va terminer, ce sera un peu long aujourd'hui. Donc, la Bible dit dans 1 Timothée 5, à partir du verset 24, pardon. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Le péché de la femme adultère était manifeste, mais les péchés des scribes et des pharisiens ont été dévoilés devant la parole faite chair. Ce n'est pas Christ qui les a accusés, mais leur propre conscience. Il faut mettre la personne devant la parole et sa conscience l'accusera. Et la personne se repentira et les cieux seront dans la joie. Christ a tellement élevé le niveau des standards de vie divin auxquels les enfants et les disciples étaient habitués, que ceux-ci, les disciples, en furent choqués. On va lire Matthieu 19. Matthieu 19, à partir du verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme cette lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. » Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement c'est à qui cela est donné. » C'est comme ça que je disais que la parole n'est pas venue à tout le monde. Car il y a des ennemis qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. De nouveau, les pharisiens étaient toujours là à chercher la petite bête. Ils voulaient encore humilier Jésus. De nouveau, c'est devant la foule qu'ils viennent poser des questions à Jésus. Nicodème, lui, était sage, il allait poser ses questions en privé. C'était aussi pour montrer qu'ils étaient les gardiens de la loi, car ce que Christ enseignait semblait être contraire à leur loi, à la loi. Mais la grâce n'est pas contre la loi. La grâce transcende la loi. Ici, il est question du mariage et du divorce. question qui a traversé les âges avec diverses interprétations, les unes dures, les autres souples. Même jusqu'à aujourd'hui, les débats sur cette question continuent. Christ ne rentre pas dans leur débat autour de ce que Moïse a dit. Il les ramène au commencement. Et cela devait normalement régler la question. C'est clair, c'est limpide et c'est simple. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ceci est la volonté parfaite de Dieu. Et Jésus nous dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors, d'où vient le problème de divorce? La Bible nous répond, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Si c'était vrai hier, ça l'est encore vrai aujourd'hui. La dureté des cœurs de l'homme, voilà le nœud du problème. C'est le nœud du problème dans toutes les affaires. C'est le cœur de l'homme. C'est pourquoi il dit dans Ézéchiel 11, à partir du verset 19, Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voilà les secrets. Sans cela, ça restera toujours un cœur de pierre et un cœur de pierre ne connaît pas le pardon, moins encore la réconciliation. Ce problème de cœur n'est pas lié au mariage, c'est lié dans toute relation. Il apparaît que la charge est mise sur l'homme. Je ne sais que dire de la femme. Laissons cela de côté. Mais ce n'est pas fini. Le Seigneur va préciser quelque chose sur le divorce qui va encore choquer les disciples. J'ai dit, Christ est venu apporter une vie parfaite. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. Ils sont choqués. Oh là là! Mais là, c'est la prison à vie dont on ne sortira jamais. C'est ça qu'il disait. Et ici, il s'agit des disciples, pas de n'importe qui. Ils se rendent compte que le mariage, c'est du sérieux, c'est du dur. Jamais ils n'avaient entendu chose pareille. Je ne sais pas quel type de femme ils avaient épousé. Mais elle ne devrait pas être facile à vivre au point de dire si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Quelqu'un a dit que l'homme est linéaire et la femme non linéaire. Et Dieu compare l'homme à Christ et la femme à l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, c'est ensemble des hommes et des femmes appartenant à Christ. Un des aspects de l'épouse qu'on peut relever, c'est qu'elle est tantôt en haut, tantôt en bas, elle tombe, elle se relève. Aujourd'hui aux anges et demain, tout à fait une autre humeur. Je paraphrase un frère qui me disait l'autre jour, les femmes ne sont pas des êtres rationnels et logiques. Elles sont plus guidées par leurs émotions qui dictent leur logique et leur comportement. Et l'homme est appelé à gérer cela avec sagesse. Est-ce vrai? À vous d'en juger. Que dire les disciples? Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Quelle était donc leur opinion sur le mariage? Qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de la femme? Ce n'est pas une esclave. Aussi dur que soit le caractère de ta femme, le vœu que tu as prononcé, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Sinon, trouvez une autre formule dans vos vœux de mariage. Laissons cela de côté. Et la femme n'est pas une personne à ta merci pour que tu fasses d'elle tout ce que tu veux. Ce n'est pas un citron qu'après l'avoir pressé, tu la jettes comme une malpropre. C'est une âme pour laquelle Christ est mort. Respectez-la comme devant hériter le royaume de Dieu avec toi. Inversement pour la femme, l'homme n'est pas ton valet pour satisfaire tous tes désirs et puis le jeter comme un malpropre quand tu vois qu'il ne répond plus à tes attentes. 50% des mariages se soldent par un divorce ici en Occident. Jésus leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » La question que nous nous posons aujourd'hui, avons-nous compris cela? Je suis en train de montrer le niveau d'exigence de vie à laquelle Dieu nous appelle. C'est très, très haut. Mais le secret de la victoire, la solution à tous nos problèmes, c'est Dieu qui la donne. Pour terminer, armez-vous de cette pensée qu'aucun mariage n'est facile. Aucune vie de célibat n'est facile. Aucune situation dans ta vie n'est facile. Mais Dieu donne à chacun la grâce dans la situation ou dans l'état où tu te trouves. Faites confiance à Dieu et confie-lui ton sort. Nous continuerons la fois prochaine, Dieu voulant, pour voir comment régler nos différends dans l'amour et dans la vérité. Prêtons-nous, on peut chanter « Être comme Jésus ».
De la terre à la mort. et par rapport à la parole qu'il a reçue. Prions. Merci Seigneur, notre Dieu, comme ce soir, tu nous as donné cette occasion, Seigneur, de pouvoir écouter ta parole, ô Dieu, nous montrant, Seigneur, la vie à laquelle tu nous as destinés dès avant la fondation du monde. Et nous te remercions, Père éternel, pour cela. Parce que ce que tu as arrêté, ce que tu as résolu, cela s'accomplira, ô Père, certainement et parfaitement. Comme, ô Dieu, cela a été dit, comme toi, Seigneur, tu as été volontaire, tu avais accepté de te donner, de te sacrifier. Pour le reste, Seigneur, ô Dieu, tu t'en es occupé, Père éternel. Je m'abandonne entre tes mains parce que tu le sais, Seigneur. Le désir de mon cœur est de pouvoir être comme toi, Seigneur Jésus, en toutes choses, Seigneur. Aimer comme toi, vivre comme toi, Père éternel. Agir, réagir, comme nous venions encore de relire ce passage, être capable d'aimer ses ennemis, être capable de prier pour ceux, ô Dieu, qui nous persécutent, qui nous critiquent, qui nous haïssent, être capable de bénir ceux qui nous maudissent, Seigneur. Et la réponse, Père éternel, mon Dieu, que toi-même tu as donnée aux disciples, Père, ce qui est impossible à l'homme, tout est possible à Dieu. Et ton prophète de le dire, c'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné pour nous faire faire des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes sans. Le but pour lequel, ô Dieu, tu l'as proclamé, Seigneur Jésus, ce soir. Ne laisse pas que les oiseaux viennent et prendre cette parole. Ne laisse pas que les soucis de la vie, les épines, les pierres prennent cette parole. Je crois que tu as parlé parce que tu veux qu'il en soit ainsi dans la vie de chacun de nous. Nous te remercions, Père éternel. Fais que cette parole soit l'objet, ô Dieu, de notre profonde méditation, Seigneur, pendant le temps, ô Dieu, que nous rentrons dans les prochains jours, jusqu'à ce que cette parole devienne nous-mêmes, Seigneur Jésus. À toi soit rendue la gloire, à toi soit rendu l'honneur, au siècle de siècles, Père. Nous te recommandons le vase que tu as utilisé, Seigneur, pour que tu continues à lui révéler ta volonté à chaque fois au temps convenable pour ton peuple, Père. Et nous recommandons aussi le peuple, Seigneur, qui a écouté, pour que, Seigneur Jésus, tu continues à te révéler à lui, Père. Nous recommandons maintenant, Seigneur, ô Dieu, la suite de cette soirée, les différents programmes qui sont prévus en cette soirée, en cette nuit, nous le recommandons entre tes mains. Prends-nous par la main, Seigneur, accompagne-nous, ô Dieu, garde-nous plus près de toi, et tout ce week-end, Seigneur, sois avec nous, Père, alors que nous le demandons, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Nous avons terminé pour ce soir.